En 2007, un Congolais du nom de Guy Goma s'est rendu au siège de la BBC pour un entretien en vue d'un emploi dans le service comptabilité de cette chaîne de télévision britannique. Et ce jour-là, se trouve dans le même bâtiment un autre Guy Cunet, un Britannique spécialiste dans les hautes technologies, qui doit être interviewé ce jour-là sur un litige juridique impliquant Apple et le téléchargement de musique sur Internet. Et ce qui devait arriver arriva. Le personnel de la BBC, on ne sait pas trop comment, s'est trompé de Guy. Alors en anglais, c'est encore mieux pour ceux qui comprennent l'anglais. They got the wrong guy. C'est génial. Et ils ont fait venir sur le plateau Guy Goma pour l'interview. Et ce pauvre monsieur qui pensait avoir un entretien dans un bureau quelque part, pour parler comptabilité, se retrouve brusquement en direct. Et lorsqu'il se rend compte de la méprise dont il est la victime, voilà la tête qu'il a fait. Mais ce qu'il y a de plus drôle, et de plus impressionnant, de plus remarquable à la fois, c'est que Guy Goma va s'efforcer de répondre aux questions de l'intervieweuse et ne s'en sort pas si mal que ça. Vous pouvez voir la vidéo sur YouTube si vous voulez. Mais combien il est important, lorsqu'on est amené à s'exprimer, de savoir de quoi on parle. Et à combien plus forte raison c'est vrai lorsqu'on est amené à s'exprimer sur le message le plus important, le plus essentiel qui soit, ce que nous affirmons, si nous sommes chrétiens, à savoir l'évangile, la bonne nouvelle. Ce qui rend peut-être l'enjeu encore plus considérable aujourd'hui, c'est le fait que notre société est saturée de messages en tout genre. Chaque seconde, des informations sont communiquées tous azimuts, non seulement au niveau individuel, ça c'est le cas depuis le début de l'humanité, mais à l'échelle mondiale et de façon instantanée. Depuis que j'ai pris la parole, combien de millions de textos, de messages WhatsApp, de tweets, de posts, de dépêches en tout genre ont-ils été envoyés? Et puis ces messages ne touchent pas que des petites choses de la vie quotidienne, mais chaque minute, des millions de messages sont diffusés qui se veulent porteurs de sens et qui souvent prétendent, d'une façon ou d'une autre, répondre aux questions existentielles des hommes. Qu'est-ce qui est bon? Qu'est-ce qui est juste? À quoi sert la vie? Et donc nous vivons aujourd'hui dans ce flot incessant de paroles en tout genre, un brouhaha à la fois assourdissant et inaudible. Or, c'est dans ce contexte que nous sommes appelés, croyons-nous, à dire l'Évangile. Et si nous croyons vraiment que c'est le message le plus important qui soit, alors combien il est essentiel? Combien il est capital de ne pas se méprendre sur le contenu du message et de le communiquer clairement pour que ce message ne fasse pas que s'ajouter au brouhaha de notre monde, mais fasse véritablement silence autour de lui. Je vais avoir une approche, disons, synthétique et thématique ce matin, mais je voudrais prendre pour point de départ de notre réflexion ces célèbres lignes de l'apôtre Paul au début de sa lettre aux Romains qui donnent le cadre de son ministère. Et plus largement le cadre de la mission chrétienne. En effet, je n'ai pas honte de l'Évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit, du juif d'abord, mais aussi du non-juif. En effet, c'est l'Évangile qui révèle la justice de Dieu par la foi et pour la foi, comme cela est écrit, le juste vivra par la foi. Ces quelques lignes soulignent combien l'enjeu de l'Évangile est unique. L'évangile, la bonne nouvelle donc, nous dit Paul, est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Une initiative donc du souverain créateur qui est à l'attention, à l'adresse, qui a pour objet le salut de l'homme. Le salut de l'homme, et c'est bien tous les hommes qui sont concernés par ce message, non pas des hommes et femmes issus d'un groupe ethnique particulier ou social ou religieux même, mais des hommes et des femmes de toutes origines, juifs ou non-juifs, souligne Paul dans son contexte. Tous sont concernés par l'Évangile. Cet Évangile, poursuit-il, révèle la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Alors, cette simple phrase pourrait faire largement l'objet d'un message entier, voire d'une convention entière, mais on retiendra ici simplement le même mouvement qu'on a vu juste auparavant, au verset précédent. On a une initiative divine, donc la justice de Dieu, qui est révélée et qui va vers l'homme, par la foi et pour la foi de l'être humain, bien sûr. Et donc, par l'Évangile, Dieu manifeste son action, mais cette action, c'est pas dans le vide, en quelque sorte, que Dieu la déploie, mais elle s'adresse à l'homme. Ça veut dire que nous ne sommes pas... Il ne s'agit pas pour nous, avant tout, de contempler l'Évangile comme des spectateurs. Il y a un temps, certainement, pour la contemplation, parfois. Mais, avant tout, nous sommes appelés à y répondre, puisque c'est une parole qui nous est adressée. Et la question que nous nous poserons ce matin, et Étienne l'a déjà souligné, elle est aussi simple que fondamentale. Qu'est-ce que l'Évangile ? Voilà, tout bonnement. Alors avant de réfléchir dans les interventions qui suivront à dire ou ne pas dire, il faut nous assurer que nous sommes au clair sur le contenu de ce qui est dit ou non dit. Alors évidemment, le contenu de l'Évangile, on va pas pouvoir faire le tour en trois quarts d'heure ce matin. Loin de là, c'est une vie entière dont nous avons besoin et même cela ne nous suffit pas pour en découvrir l'ensemble, pour en découvrir toute la richesse. Et puis, bien sûr, ce message de l'Évangile, parmi vous, je pense que l'immense majorité l'ont fait sien, ce message, l'ont reçu, en connaissent le cœur, y croient. Alors, c'est peut-être pas le cas de tous. Il n'est pas trop tard. Ça peut être aussi pour ça une convention. Donc, la plupart d'entre vous en connaissent le cœur, y croient, ont même misé leur vie sur ce message par la foi. Donc il ne s'agit pas de vous apprendre ce qu'est l'Évangile, bien sûr, mais plutôt de nous assurer ensemble que notre vision de l'Évangile reflète un tant soit peu la richesse des données bibliques. Pour répondre à la question « qu'est-ce que l'Évangile ?», je vais vous proposer une image qui est celle des cercles concentriques. Il y a au cœur de l'Évangile un point focal. Je crois qu'on ne risque pas trop de se tromper en disant que ce point focal, c'est la croix. Alors la résurrection est directement associée, mais on va dire que le point focal, c'est la croix, et c'est ce qui s'est passé à la croix. Mais autour de ce point central de l'Évangile, l'Évangile se déploie dans ses effets et dans ses implications à l'infini, véritablement à l'infini. Et donc l'image des cercles concentriques, pour cela, peut nous aider un peu. Alors je vous rassure, mon intervention, elle, encore une fois, ne sera pas infinie par contre, elle sera même extrêmement schématique, mais je vous propose de relever parmi d'autres, et je sais très bien qu'on pourrait dire, oui, tu aurais pu parler de ça et de ça et de ça, mais parmi d'autres, on va relever 5 cercles concentriques qui sont tous, il me semble, des aspects essentiels de l'Évangile. Et je vais partir du centre pour aller vers l'extérieur, c'est-à-dire qu'au centre, il y a l'aspect dans un sens le plus précis et le plus limité du message, dans un certain sens, mais sans lequel tout le reste n'aurait aucun sens, et à l'extérieur, des aspects du message un peu plus larges dans leur application, mais tout aussi essentiels, car tout cela fait partie du même message. Voici les aspects, les 5 aspects de la bonne nouvelle que je voudrais relever ce matin. L'Évangile, un message de sacrifice, un message de pardon, un message d'accueil, un message de consolation, un message de victoire. Encore une fois, on part un peu du centre et du plus précis pour aller un peu vers, non pas ce qui est moins important, mais ce qui est un peu plus large dans son application. Un message de sacrifice, tout d'abord. Certains points seront un peu plus longs que d'autres, mais je vous rassure, ça devrait aller. Au cœur du message évangélique, il y a un sacrifice. Pour dire les choses encore plus précisément, on pourrait dire qu'il y a une substitution. Cet aspect, je le crois, central dans l'Écriture, Ancien et Nouveau Testament. Et pourtant, c'est l'un des aspects les plus théologiquement controversés aujourd'hui, même au sein du christianisme, de ce message. Pour résumer cet aspect, cette substitution, voici comment on peut dire les choses, c'est imparfaitement, mais voici comment on pourrait essayer de les dire. Jésus-Christ a subi à notre place la condamnation que nous méritions en raison de notre péché. Jésus-Christ a subi à notre place la condamnation que nous méritions en raison de notre péché. On l'a déjà chanté plusieurs fois ce matin. Ici, on parle de condamnation dans un registre juridique, donc. La Bible parle parfois aussi de colère de Dieu contre le pécheur. Or, cette condamnation, cette colère qu'encourt l'homme pécheur en raison de son rejet de Dieu, eh bien, nous dit l'Évangile, Jésus-Christ l'a prise sur lui à notre place. Je cite plusieurs textes bibliques parmi bien d'autres qui me semblent particulièrement explicites à ce sujet. On a dans l'Évangile de Marc, au chapitre 10, verset 45, qui a un parallèle dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 20, Jésus affirme ceci, « Le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. » Donner sa vie en rançon. Alors bien sûr, la rançon ici, c'est une image, c'est évident. Mais c'est une image qui évoque un prix à payer. Un prix que le Fils de l'homme, comme Jésus se désigne souvent, a payé en donnant sa vie. L'apôtre Paul, à son tour, parle en termes, ici non pas de rançon, mais vraiment de sacrifice. Ce texte bien connu de l'Épître aux Romains, Romains 3, versets 23 et 25 à 25, « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang une victime expiatoire pour ceux qui croiraient. » Une victime expiatoire pour ceux qui croiraient. Le mot traduit ici par victime expiatoire a fait l'objet de pas mal de débats pour savoir si l'aspect premier évoqué par ce terme, hilastérion, pour ceux qui voudraient aller faire des recherches là-dessus, savoir si l'aspect premier évoqué par ce terme, c'est l'effacement des péchés ou l'apaisement de la colère de Dieu. Est-ce que c'est avant tout le fait que Dieu efface les péchés ou est-ce que c'est le fait que par ce sacrifice, sa colère contre nous est apaisée? Qu'est-ce qui est dit en premier lieu par ce terme? Eh bien, je ne vais pas trancher ça maintenant, parce que l'essentiel est de reconnaître l'aspect, dans les deux cas, incontestablement sacrificiel, exprimé ici par Paul. Christ a donné sa vie pour sauver la nôtre. Christ a pris sur lui la condamnation et la colère, oui, pour que nous en soyons épargnés. L'apôtre Pierre s'exprime de façon très semblable. Christ aussi a souffert, et ce une fois pour toutes, pour les péchés. Lui, le juste, il a souffert pour des injustes, afin de vous conduire à Dieu. 1 Pierre 3,18. L'apôtre Jean va dans le même sens, dans sa première lettre. Si quelqu'un a péché, nous avons un défenseur auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Et de même, l'auteur de l'Épître aux Hébreux écrit « Par une seule offrande, il, donc Christ, a conduit à la perfection pour toujours ceux qu'il rend saints. » Et comment ne pas être saisi par le fait que bien des siècles auparavant, le prophète Ésaïe, évoquant le serviteur de l'Éternel dans ce texte si connu également, s'exprimait ainsi. « Mais lui, ce serviteur, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes, la punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. » Ésaïe 53, verset 5. Et puis à cela, bien sûr, il faut ajouter tout l'arrière-plan cultuel d'Israël selon la loi de Moïse, avec ses sacrifices, son besoin de purification, ce besoin de restaurer la paix entre Dieu et les hommes et entre les hommes entre eux. Autant de préfigurations du sacrifice parfait à venir en Christ. Difficile donc de passer à côté de cette vérité centrale de l'Évangile. Alors beaucoup cherchent malgré tout à le faire, bien sûr, soit en affirmant avec une certaine créativité que tous ces textes parlent d'autre chose. Et on peut toujours arriver à faire dire un peu ce qu'on veut au texte, bien sûr, et qu'il n'est pas vraiment question de sacrifice. Ou bien, peut-être plus souvent, sans nier totalement cet aspect, mais en ne mettant pas l'accent dessus. Pourquoi cette contestation? Eh bien, il faut reconnaître que la doctrine de la substitution pénale, comme on l'appelle, heurte de plein fouet notre sensibilité occidentale moderne. Nous détestons parler de culpabilité, sauf quand il s'agit des autres. Notre société passe son temps à dire qui est fautif, pourquoi. Quand il s'agit des autres, il n'y a pas de problème. Mais nous avons un mal fou, même nous chrétiens, reconnaissons-le, et moi aussi, à nous reconnaître coupables, dans l'absolu, et a fortiori coupables aux yeux de Dieu. Nous détestons peut-être plus encore parler de châtiment, de punition. Les mots même nous rendent un peu allergiques. Nous détestons parler de condamnation. Et alors ne parlons même pas de la colère divine. Pourquoi ? Pour beaucoup de raisons. Certaines sont compréhensibles, notamment la déformation qui a pu être faite dans le christianisme et en dehors de telles notions devenues caricaturales, utilisées comme une arme contre les hommes. Mais surtout, je crois, parce qu'à la suite de nos premiers parents, notre tendance naturelle est de remettre en question l'autorité morale de Dieu, son droit absolu d'évaluer notre façon d'être et de penser. C'est plus encore le cas, sans doute, dans la continuité des Lumières, de la modernité. Nous avons intégré un monde dans lequel l'homme est le personnage central. Un monde dans lequel le Créateur, s'il existe, n'a aucun droit sur ses créatures, à part éventuellement celui de valider nos choix. Et pourtant, il me semble que cet aspect de l'Évangile, le sacrifice, la substitution de Jésus-Christ aux pécheurs, est bien le point focal du message. C'est très loin, bien sûr, d'être le seul aspect de l'Évangile. Et il peut arriver que les évangéliques que nous sommes, dans notre zèle pour défendre à juste titre cet aspect, perdions de vue tout le reste. Ça peut arriver aussi. Mais ceux qui contestent l'aspect sacrificiel, substitutif de l'Évangile, devraient méditer ce qui me paraît être un terrible prix à payer. Parce que cet aspect de substitution et de sacrifice manifeste de manière inouïe et unique l'amour du Dieu trinitaire. L'apôtre Paul s'écrit « Voici comment Dieu prouve son amour envers nous alors que nous étions encore des pécheurs. Christ est mort pour nous. » Romains 5:8. Et un peu plus loin dans la même lettre, « Lui qui n'a pas épargné son propre Fils mais l'a donné pour nous tous, comment ne nous accorderait-il pas aussi tout avec lui ?» Et même si le mystère de la Trinité, il y avait une convention il y a 4 ans là-dessus, dépassera toujours notre entendement, eh bien l'apôtre Paul nous rappelle que sur la croix, Dieu était en Christ, de Corinthiens 5. Il y a une parfaite harmonie de volonté et d'action entre le Père et le Fils et l'Esprit. Et donc si on laisse de côté ce message stupéfiant de ce sacrifice divin par amour pour l'homme, il me semble que nous perdons le message d'amour le plus puissant, le plus sublime, qui ait jamais été proclamé. Mais également, et objectivement, la substitution est le gage d'une profonde assurance. Parce que si Christ a payé le prix, si il a pleinement subi ma condamnation à ma place, de sorte que ma dette est payée, de sorte que ma faute est couverte, alors je n'ai plus à craindre cette condamnation de Dieu. Dieu a payé lui-même. J'ai plus rien à craindre, puisque Dieu s'en est lui-même occupé par ce sacrifice de substitution. Non seulement Dieu m'a aimé, mais il a ôté de lui-même tout ce qui pouvait me séparer de son amour. Ainsi, le sacrifice est au cœur de l'Évangile. Alors quand nous disons l'Évangile les uns aux autres, quand nous cherchons à le vivre, à en parler à nos enfants, à nos amis non-croyants, à nos contemporains, plutôt que de cacher ou de nier cet aspect, nous devrions au contraire braquer les projecteurs sur cette expression inouïe de l'amour de Dieu. Un message de sacrifice donc. Or de ce sacrifice découle l'aspect suivant de l'Évangile que je voudrais relever, le deuxième cercle concentrique, l'Évangile, un message de pardon. Plusieurs siècles avant Jésus-Christ, le prophète Jérémie proclamait cet oracle magnifique à propos d'une nouvelle alliance que le Dieu d'Israël conclurait avec son peuple. « Je pardonnerai leurs fautes et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » Quelle force dans ces quelques mots. « Je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » À l'échelle humaine, j'espère que beaucoup d'entre nous, sinon tous, avons pu faire l'expérience du pardon. Un pardon que nous avons parfois accordé, sans doute, sûrement, mais aussi le pardon reçu. Je me rappelle d'une situation il y a pas mal d'années maintenant où j'ai eu conscience d'avoir dit quelque chose de blessant à propos d'un ami chrétien. Et je me souviens combien ça m'a travaillé et combien j'ai fini par me dire « il faut que je lui dise quelque chose, il faut que j'aille lui demander pardon ». Et j'en menais pas large, c'est quand même pas facile. Et je suis allé le voir finalement, je lui ai dit « je te demande pardon ». Et j'espérais un petit peu, vous savez comment c'est, j'espérais un peu qu'il me dira « mais non, mais tu m'as pas du tout blessé ». Il n'a pas dit cela, il a dit quelque chose de bien mieux, de beaucoup plus vrai. Il a dit « merci de me l'avoir dit, tu es pleinement pardonné ». Et quand j'ai essayé de balbutier d'autres choses pour expliquer le contexte, pourquoi j'avais pu dire ça, il m'a stoppé net et il m'a dit « t'inquiète pas, l'affaire est close, on n'en parle plus ». Et je me souviens du profond soulagement vécu à ce moment-là. Ce n'était même plus la peine d'en parler, c'était oublié. Alors bien sûr, là, je parle d'une offense assez modeste. Et je pourrais, et nous pourrions donner des exemples beaucoup plus lourds et difficiles de pardon donné ou reçu. Le pardon n'est jamais facile. Il prend parfois du temps. Peut-être parfois toute une vie. Mais il change la vie de fond en comble. C'est l'une des réalités les plus puissantes qui soit. Or, ce qu'affirme l'Évangile, c'est que le pardon le plus essentiel, celui sans lequel nous nous égarons de ce qu'il y a de plus important, nous est pleinement offert en Jésus-Christ. Parce que, justement, Christ s'est substitué à nous à la croix, Dieu nous pardonne pleinement, librement, sans arrière-pensée, sa justice est satisfaite. Il ne nous regarde plus comme fautifs, mais comme des êtres qu'il peut et qu'il va combler de son amour. Au paralytique qu'on fait descendre du toit, dans cet épisode bien connu des évangiles à Capernaum, Jésus dit l'essentiel en premier. Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Marc 2,5. Il n'est pas question, à ce moment-là, de guérison physique. On a presque l'impression qu'il n'en sera pas question. Le pardon éternel des péchés est un bienfait infiniment plus grand que la guérison pour quelques décennies d'un corps meurtri. Aussi magnifique que cela soit. Et ce n'est que dans un deuxième temps pour donner un signe à la fois de son autorité et de la grâce qu'il y a dans son pardon que Jésus va dire à l'homme « lève-toi et marche ». Au début de sa lettre aux Éphésiens, Paul proclame la même vérité. Le pardon est pleinement offert en Jésus-Christ. En lui, écrit-il, par son sang nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes conformément à la richesse de sa grâce. Et donc ce Dieu qui, tout au long de l'Écriture, se montre implacable dans son rejet du mal, dans son exigence morale absolue, et il y a des textes qui sont durs, quand on voit à quel point la sainteté de Dieu ne tolère pas le mal. Eh bien ce même Dieu-là, il choisit d'effacer définitivement la faute et d'oublier tout contentieux entre lui et nous. Il choisit, pour reprendre le vocabulaire bien connu de l'apôtre Paul, de nous justifier, de changer notre statut à ses yeux de injuste à juste. L'apôtre Jean, alors qu'il évoque, justement dans une lettre parfois un peu dure à entendre, ses exigences morales de Dieu, l'appel à une vie d'obéissance, vivre dans la lumière et non pas dans les ténèbres, une vie d'obéissance et d'amour du prochain, eh bien, il va s'interrompre comme pour rassurer ses lecteurs, comme pour les réconforter. Pour redire cette vérité si précieuse. Je vous écris, petits enfants, rappelez-vous, parce que vos péchés sont pardonnés à cause de son nom. Il n'y a rien de plus important pour l'homme que sa relation avec son Créateur. Et cette relation qui était brisée est désormais entièrement et éternellement restaurée. Alors si nous avons vu cette relation entièrement restaurée, nous avons tout reçu. Nous avons reçu l'essentiel. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul peut s'écrier « Nous supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu » de Corinthiens 5. Nous supplions, soyez réconciliés avec Dieu. Mais cet aspect de l'évangile, le pardon, est également essentiel parce qu'il transforme nos relations humaines. Si nous, qui méritions la condamnation et la colère de Dieu, avons été pleinement et définitivement pardonnés, comment pouvons-nous refuser d'accorder le pardon à notre prochain? Alors là, je parle en tout cas du pardon demandé. Je ne rentre pas dans le débat sur la définition exacte du pardon. En tous les cas, le pardon demandé. Refuser de pardonner, c'est dire que ma situation aux yeux de Dieu était moins grave que celle de mon prochain à mes yeux. Refuser de pardonner, c'est me considérer comme une autorité morale plus exigeante que le Dieu trois fois saint. Le pardon de Dieu a une puissance stupéfiante parce qu'il démonte, et on pourrait presque dire qu'il ridiculise, les conflits humains. Jésus raconte une parabole très frappante au sujet du pardon, celle du serviteur impitoyable. Matthieu chapitre 18. On ne va pas lire ce texte maintenant, mais je vais le paraphraser rapidement. Et vous la connaissez sans doute, cette histoire. C'est l'histoire d'un serviteur qui devait à son maître 10 000 talents. Alors 10 000 talents, ça ne nous parle sans doute pas beaucoup, mais c'est une somme absolument faramineuse, équivalente à des milliards aujourd'hui. Je n'exagère pas, parce qu'un talent, à l'époque, c'était 20 ans de salaire d'un ouvrier. Un talent, 20 ans de salaire. Alors imaginez une dette de 10 000 talents, 10 000 fois 20 ans de salaire. Même la clause libératoire de Neymar n'est rien par rapport à une telle somme. Et Jésus utilise cette somme ahurissante, qui choquait immédiatement ses auditeurs. C'est comme, et ça nous parlerait plus, d'ailleurs je me demande si la Bible du semeur ne fait pas ça, de dire qu'il devait des centaines de millions, quelque chose comme ça. Il utilise cette somme ahurissante précisément pour montrer que la dette était colossale, sans aucun espoir de remboursement. Mais le maître a pitié du serviteur et lui remet cette dette entièrement. Ensuite, le serviteur rencontre un ami qui lui doit 100 pièces d'argent. C'est pas rien. C'était plusieurs mois de salaire quand même. Pas rien comme somme. Mais sans aucune comparaison, bien sûr. Et là, celui qui a reçu un pardon aussi colossal de la part de son maître refuse de remettre la dette de son ami. Comme s'il ne faisait pas le rapport. Et si souvent, je crois que nous non plus, nous ne faisons pas le rapport entre le pardon de Dieu et celui que nous sommes invités à accorder. Et pourtant, la Bible, elle fait systématiquement le rapport. Et notre monde, ce monde auquel il faut dire, parfois ne pas dire, notre monde a un besoin criant de pardon. Partout, des conflits s'embrasent à petite et à grande échelle. Mais le pardon est aux abonnés absents. Parfois, les chrétiens se demandent ce qui peut les distinguer. Dans un monde occidental propre sur lui, où la courtoisie, la tolérance sont superficiellement présentes. Et effectivement, si notre compréhension de l'Évangile se limite à être gentil ou à être tolérant, nous n'avons à peu près rien à dire à ce monde-là. Mais le pardon, lui, il change tout. Il fait silence. Il touche profondément. Et si nous sommes des hommes et des femmes qui pardonnent et qui pardonnent encore, qui pardonnent à tour de bras, eh bien le monde ne pourra pas ne pas voir notre différence. Alors quand nous nous disons l'Évangile les uns aux autres, quand nous cherchons à le vivre, quand nous en parlons à nos enfants, à nos amis non-croyants, à nos contemporains, eh bien que le pardon soit au cœur de notre parole et de nos actes. Du sacrifice découle le pardon, du pardon découle, sera notre troisième cercle concentrique, plus brièvement, l'accueil. On se souvient, un message d'accueil, donc on se souvient lors de la vague d'immigration de 2015, en Europe, comment l'Allemagne a ouvert ses frontières pendant quelques semaines et accueilli des centaines de milliers de réfugiés. Alors la question politique est compliquée, je sais. Là encore, je ne vais pas rentrer dans ce débat-là. Mais difficile, vous en conviendrez, difficile de ne pas s'émouvoir devant la vue de ces Allemands dans les gares avec des panneaux où il était écrit « Welcome », bienvenue. Et ces réfugiés qui, pour beaucoup, avaient vécu dans le danger, la crainte, l'épuisement, rejetés de partout pendant des semaines, étaient brusquement accueillis, les bras ouverts. Au cœur de l'Évangile, il y a un message d'accueil. Nous mettons peut-être moins l'accent sur cet aspect. Et pourtant, ce n'est pas un aspect périphérique ou accessoire. Ce n'est même pas une simple conséquence de l'Évangile, comme nous le disons parfois. Mais c'est bel et bien au cœur du message. Nous ne sommes pas simplement délivrés des charges qui pesaient sur nous et réconciliés avec Dieu, pardonnés. Nous sommes également accueillis. Nous avons notre place dans la maison du Père, Jean 14, 2. Dans la maison du Père, notons qu'il ne s'agit pas seulement d'un accueil familial, mais bien, pardon, d'un accueil amical, mais bien d'un accueil familial, filial. Et cette réalité, elle est déjà présente dans la prière que Jésus apprend à ses disciples, notre Père qui es aux cieux, notre Père. L'apôtre Paul, lui, il utilise un terme plus précis encore, en parlant d'adoption. Éphésiens 1, verset 5, « Il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. » Romains 8, 15, « Vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Oui, l'Évangile annonce que Dieu accueille tous ceux et celles qui se tournent vers lui, quel que soit leur passé, quelle que soit la lourdeur des choses qu'ils amènent avec eux. Et comme l'illustre magnifiquement la parabole du fils prodigue, dite du fils prodigue ou des deux fils, ce n'est pas un accueil distant et condescendant, bon allez, ça ira pour cette fois, mais c'est l'accueil d'un père qui court à la rencontre de son enfant et qui va faire la fête en son honneur. Or là encore, le monde qui nous entoure a terriblement besoin d'un tel message. L'exclusion, le rejet, la solitude sont une réalité quotidienne dans nos sociétés comme partout. Les relations humaines également, même celles qui en surface sont amicales, sont si souvent calculées, prudemment pesées et conditionnées. Si on obtient une place quelque part, il va falloir montrer qu'on la mérite. Il va falloir se battre pour la garder. Mais Dieu, lui, offre un accueil inconditionnel. Et parce que nous sommes envoyés dans le monde comme témoins de l'Évangile, eh bien l'Église, en tant que communauté de l'Évangile, est appelée à dire cet accueil et bien sûr à vivre cet accueil. Un accueil à la fois tourné vers l'extérieur, bien sûr, l'accueil de ceux et celles qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Est-ce que dans nos vies d'Église, dans notre manière même de vivre nos cultes, nous pensons à ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur? Ou est-ce que nous sommes juste bien entre nous? Mais aussi, bien sûr, un accueil tourné vers l'intérieur, l'accueil des uns et des autres en tant que frères et sœurs, que nous signifions en prenant la scène pour montrer que nous sommes une famille rassemblée à la table de Jésus-Christ. Un accueil que nous vivrons, pas seulement en disant bonjour, ça va, etc., mais en nous intéressant, en nous impliquant dans nos peines et nos joies respectives, en exerçant l'hospitalité, bref, en étant vraiment une famille. Alors, c'est exigeant tout ça, pour moi, au moins autant que pour vous tous. Mais quand nous nous disons l'Évangile les uns aux autres, quand nous cherchons à le vivre, quand nous en parlons à nos enfants, à nos amis non-croyants, à nos contemporains, assurons-nous que nous disons et que nous vivons un message d'accueil les bras grands ouverts. Parce que notre monde a tant besoin de cet accueil. Un message de sacrifice, de pardon, d'accueil. Quatrième cercle concentrique, un message de consolation. Nous pouvons tous penser à des moments où nous avons vécu la délivrance d'une épreuve. Au-delà de nos vies personnelles, on voit cela dans l'actualité, lorsqu'une situation terriblement tendue est résolue. On pense aux frères et sœurs, à nos bien-aimés pour qui nous avons prié et qui sont délivrés. Par exemple, nous sommes sans doute nombreux ici à nous être réjouis récemment en lisant le message de notre frère Chris Short, nous annonçant sa rémission complète après plusieurs mois de lutte contre le cancer. La Bible nous présente l'Évangile comme un message de consolation, de réconfort après l'épreuve. Et on pense notamment au magnifique refrain d'Ésaïe 40. « Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem, criez-lui que sa période de combat est terminée, que sa faute est expiée, qu'elle a reçu de l'Éternel le salaire de tous ses péchés. » Dans le contexte immédiat, bien sûr, ce qu'Ésaïe annonce, en premier lieu, c'est la libération des Judéens après 70 ans d'exil à Babylone. Mais de nombreux indices partout dans ce livre d'Ésaïe montrent que le prophète envisageait déjà, au-delà de cet événement historique, une libération d'exil beaucoup plus profonde, la délivrance d'un esclavage beaucoup plus profond, qui concerne l'humanité entière, la libération de l'esclavage du péché et de l'exil que représente une vie vécue loin de Dieu. Et ce message de consolation, il retentit à nouveau un peu plus loin dans le même livre d'Ésaïe, chapitre 61. « L'Éternel, dit le mystérieux narrateur, m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux déportés la liberté et aux prisonniers la délivrance. » Et Jésus, au début de son ministère, citera ce texte pour parler de lui. Oui, au cœur du message de l'Évangile résonne la consolation qui vient de tout ce que nous avons vu jusqu'ici, le sacrifice, le pardon, l'accueil auprès de Dieu. Or, la consolation, c'est un message aussi d'une pertinence brûlante pour un monde en proie à la souffrance. Nous pouvons être frappés à juste titre par l'immoralité et la méchanceté qui sévissent dans le monde. Mais un petit peu comme quand on va chez l'ophtalmo et qu'il vous fait changer de lunettes pour lire les lettres, là, vous savez de quoi je parle, eh bien, on peut lire la même chose mais prendre d'autres lunettes. Et au lieu de voir l'immoralité, la méchanceté qui sont bien là, de voir toute la souffrance qu'il y a derrière ces choses-là. Toute la souffrance faite et la souffrance subie. Toute la souffrance qui est vécue dans le monde au quotidien. Des relations brisées, des déceptions cruelles, des trahisons, de la cruauté, à petite échelle comme à grande échelle. Et au-delà des douleurs de ce monde déchu, la Bible présente la pire des souffrances, comme la pire des souffrances, le fait d'être séparé de Dieu. Comme l'écrit l'apôtre Paul en Éphésiens 2, « sans espérance et sans Dieu dans le monde ». Or, la consolation qu'apporte l'Évangile est une réponse parfaite, massive, à cette souffrance fondamentale. Parce qu'en restaurant la relation brisée avec notre Créateur, l'Évangile nous apporte la solution au problème qui est à la base de tous les problèmes, au problème qui sous-tend notre vie entière. Et ce faisant, il nous apporte la consolation parfaite à laquelle nous aspirons tous si profondément. Alors bien sûr, comme l'écrit l'apôtre Paul, là encore, aujourd'hui nous soupirons dans l'attente de la nouvelle création, du monde nouveau que Dieu tient en réserve et du plein accomplissement de ses promesses. Nous souffrons encore, nous pleurons encore. Nos larmes, celles que Dieu effacera un jour, nous dit la Bible, nos larmes coulent encore. Mais notre relation avec Dieu, elle, a été restaurée. L'essentiel, nous l'avons reçu. Nous sommes un peu comme quelqu'un qui, après des années de chômage de longue durée, aurait signé un nouveau contrat de travail, mais devrait attendre quelques mois pour que ce contrat prenne effet, et la rémunération qui va avec, etc. Et donc, en attendant, dans cette période d'attente qui reste, la précarité continue, la souffrance de l'attente continue, mais l'assurance de l'avenir change entièrement notre regard sur la vie au quotidien. Or, en répondant de façon si directe à la source de toutes nos souffrances, Dieu nous promet qu'un jour, tout ce qui aujourd'hui nous fait souffrir s'effacera dans la plénitude parfaite qui viendra d'une relation parfaitement restaurée avec Dieu, vécue cette fois sans obstacle, débarrassée enfin de notre péché et des souffrances de ce monde pécheur. Joni Erickson-Tada, cette chrétienne paraplégique, célèbre pour son témoignage si lumineux, a écrit récemment, à l'occasion des 50 ans de son accident, elle a écrit ce message en évoquant la résurrection à venir. « Je trouve si poignant de savoir que le jour où, enfin, je pourrai utiliser mes propres bras pour essuyer les larmes de mon visage, je n'aurai plus besoin de le faire, puisque c'est Dieu qui les essuiera. » Alors bien sûr, le monde aussi cynique que souffrant, et cynique parce que souffrant, nous accuse, nous chrétiens, de répandre un opium du peuple quand nous disons de telles choses, une solution de facilité. N'est-ce pas trop facile, nous dit-on, de faire miroiter une telle espérance comme échappatoire à la dure réalité de notre monde? Et n'est-ce pas faire preuve d'une force de caractère bien plus grande que d'accepter le monde quel qu'il est et de chercher à en faire quelque chose? Ça paraît impressionnant à première vue. Mais cet argument souvent entendu, nous pouvons lui répondre que précisément, si l'homme a une telle aspiration, un tel désir de plénitude, de paix, de joie, de consolation, et ne se satisfait jamais, quoi qu'il arrive, de la réalité du monde présent, eh bien c'est que, comme l'écrivait si bien C.S. Lewis, nous avons été créés pour un autre monde. Nous avons été créés pour un autre monde que celui que nous connaissons. Et c'est pour ça que nous ne nous en satisfaisons pas. Et même les plus cyniques et les moins croyants cherchent aussi à combler leur plus profond désir de joie, de paix, de plénitude. La question est de savoir pourquoi nous avons ces désirs en nous et ce qui peut vraiment les combler. À notre monde qui crie sa douleur à chaque instant derrière les faux masques de la respectabilité humaine, nous pouvons apporter le seul message qui console vraiment. Parce que c'est le seul message qui va à la source même de la souffrance, de toute souffrance. Alors notons bien que la Bible ne nous propose pas de consolation facile, de consolation à bon marché. Il y a des épreuves, il y a des peines que nous continuerons à porter notre vie entière de ce côté-ci de la résurrection. Il y a des plaies qui ne seront, dans ce monde présent, jamais pensées vraiment. Mais ce que la Bible affirme, il me semble, c'est que tous ces chemins qui aujourd'hui semblent des impasses, ces impasses que sont nos épreuves aujourd'hui, eh bien Dieu les fera déboucher ce jour-là, comme une sortie de labyrinthe, vers une seule issue, la vie dans sa plénitude. Et nous sortirons donc de ce labyrinthe pour connaître enfin la vie dans toute sa force. Alors quand nous nous disons l'Évangile les uns aux autres, quand nous cherchons à le vivre, à en parler à nos enfants, à nos amis non-croyants, à nos contemporains, que nos paroles et nos actes soient porteurs de la réconciliation que Dieu offre et de la consolation que Dieu offre. J'en arrive à notre dernier cercle concentrique, un message de victoire. La puissance n'est pas toujours là où on l'imagine. Dans un excellent film des années 90, Usual Suspects, on passe tout le film... On va essayer de voir l'image. On passe tout le film à se demander qui détient véritablement le pouvoir dans une organisation criminelle. Et à la fin, on s'aperçoit qu'il s'agit de la personne la plus improbable, celle qui était en apparence la plus faible. Désolé pour ceux qui n'ont pas vu le film, mais c'est un peu daté, donc je me suis permis de le faire. Il y a prescription. Alors, la comparaison s'arrête là. D'autant plus que dans ce film... Le pouvoir en question est malfaisant. Mais la Bible nous dévoile un Dieu qui aime déployer sa puissance de manière surprenante, de manière paradoxale. Le Dieu des esclaves israélites contre les Égyptiens, le Dieu de David contre Goliath, le Dieu d'un tout petit pays Israël qui est encerclé de vastes coalitions païennes. Et la croix est bien sûr l'exemple par excellence de cela. Dieu se soumet en Jésus-Christ pour accomplir ses plus grandes promesses à l'humilité du service et puis à l'opprobre et à la torture publique sur la croix. Or, il ne faut pas se méprendre. Dieu n'est pas un Dieu qui cultiverait la faiblesse, mais un Dieu qui, au contraire, déploie sa puissance, même dans la faiblesse apparente, et qui est capable, comme par subversion, d'utiliser ce qui apparaît aux hommes comme la faiblesse pour en faire la plus grande déclaration de puissance. Et il serait dramatique d'oublier, dans notre annonce de l'Évangile, cette déclaration de victoire qu'est la bonne nouvelle. Cette victoire s'est déployée à la croix déjà, et bien sûr, elle a éclaté au grand jour le dimanche de Pâques. Je cite Colossiens, chapitre 2, versets 14 et 15, un texte particulièrement frappant parce qu'il montre le lien direct entre deux choses que nous n'associons pas spontanément, le pardon et la victoire. Voici ce que Paul écrit. « Il, Dieu, a effacé l'acte rédigé contre nous qui nous condamnait par ses prescriptions. Il l'a annulé en le clouant à la croix. » Conséquence, il a ainsi dépouillé les dominations et les autorités et les a données publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Si on revient sur ce qu'on a vu un peu plus tôt, à savoir que la source de tous les malheurs de l'homme, c'est la rupture de la relation avec Dieu, une rupture inspirée par le malin lui-même, eh bien on comprend en quoi la croix, en effaçant cette rupture, a marqué la défaite absolue de l'ennemi, a ridiculisé les puissances du mal en les rendant impuissantes à garder captives dans l'injustice les rachetées de Dieu. Et si ce sont, je crois, les puissances spirituelles du mal qui sont visées en premier lieu ici par les propos de Paul, les autorités, etc., il faut reconnaître que des puissances humaines sont elles aussi comme mises à nu et reléguées à l'insignifiance par l'œuvre de Christ, qui seule est porteuse d'un avenir éternel pour l'homme, qui seule répond au problème fondamental de l'humanité, qui seule ne peut être vaincue ni arrêtée par qui que ce soit ou quoi que ce soit. Et puis la croix a conduit à Pâques, le crucifié est sorti du tombeau. Et qui pourrait oublier ces paroles de triomphe ? Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Je ne sais pas si on mesure toujours bien la force de cette phrase. Tout pouvoir m'a été donné, pas seulement dans le ciel, mais sur la terre également. En s'attaquant et en triomphant du péché, du mal et de la mort qui accable l'homme, en transformant la condition humaine comme jamais aucune puissance ici-bas ne pourra jamais le faire, Christ a montré qu'il est celui qui aura toujours le dernier mot sur l'histoire humaine. Et c'est pourquoi l'Évangile est aussi et ô combien un message de victoire, un message d'autorité. Un message qui appelle l'homme non pas seulement à se réjouir d'être gracié, pardonné, accueilli, consolé, mais qui l'enjoint aussi à se prosterner, à faire allégeance au maître de l'histoire. Dans certaines cultures, je suis pas spécialiste, je suis pas missiologue, mais dans certaines cultures, il semble que cet aspect de l'Évangile soit très prévalent. Et on n'a pas de fausse pudeur à clamer cette victoire pour vouloir se ranger du côté de la puissance qui aura toujours le dernier mot sur les autres puissances. En Occident, et sans doute particulièrement en Europe, pour toutes sortes de raisons, on a du mal avec cet aspect. On le met souvent de côté. Et pourtant, notre monde a besoin d'une puissance juste, bonne, d'une puissance qui défait le mal et qui exerce et établit la justice. Pourquoi croyez-vous qu'on aime tant les films de super-héros, les films d'action, les triomphes improbables, le bien qui triomphe du mal? Pourquoi est-ce que nous avons cela en nous? Nous aspirons à ce que le mal auquel trop souvent nous contribuons nous-mêmes, nous aspirons à ce que le mal soit défait. Nous aspirons à ce que Satan soit écrasé sous nos pieds. Or, la bonne nouvelle, c'est que ce triomphe est réel en Jésus-Christ. Alors oui, là encore, nous attendons ce jour où, après avoir tant patienté pour que beaucoup puissent répondre à son appel, Dieu mettra fin à la révolte humaine. Il jugera avec justice le monde entier. Il établira le monde nouveau, transformé. Mais en attendant, il est capital que nous nous rangions, comme on le dit parfois, généralement pour parler d'autre chose, que nous nous rangions du bon côté de l'histoire. Non pas le côté de la puissance trompeuse des hommes, mais celui de la puissance vraie et éternelle de Dieu. Et notre monde a besoin d'entendre que Jésus-Christ est le Seigneur, le Maître, qui réclame et mérite notre allégeance, le roi véritable qui a autorité sur toute chose. C'est notre ami Edouard Nelson, qui n'est pas encore arrivé, qui aime dire « Jésus est le roi de Paris, il est le roi de France, il est le roi de Belgique ». Je sais qu'on dit roi des Belges, mais Jésus, c'est le roi de Belgique, de tout le pays, et le roi de Suisse également, le souverain sur le monde entier. Alors quand nous nous disons l'Évangile les uns aux autres, quand nous cherchons à le vivre, à en parler à nos enfants, à nos amis non-croyants, à nos contemporains, soyons les messagers de la plus grande des victoires. Le temps est venu de conclure très brièvement, et je le ferai en disant juste quelques mots sur notre thème, dire ou ne pas dire. Alors je ne doute pas que les autres intervenants nous éclaireront sur les circonstances et occasions où il est préférable de parler ou parfois de se taire. Et je suis d'accord, bien sûr, qu'il y a des moments où la sagesse nous invite à nous taire. Cela dit, je pense que l'Église de France, de Belgique et de Suisse a quand même beaucoup plus besoin d'être encouragée à parler que d'être encouragé à se taire. Parce que le message dont nous sommes les modestes porteurs est un message dont l'enjeu est la vie et la mort, pour le monde comme pour chacun. Et je terminerai avec ces mots de l'apôtre Jean, « Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est dans son Fils. Amen.